Troisième et dernière partie de Delirium environnemental. Enfin, on va au fond des choses. On lâche un peu l'actualité, quoique c'est assez d'actualité. Merci. Comme je vous annonçais en début d'émission, donc cette semaine, on a le plaisir de recevoir deux de ces jeunes cyclistes. Entre autres choses, j'imagine que vous n'êtes pas seulement des cyclistes, qui en février dernier, donc en février 2005, faisait Montréal-Québec pour interpeller le gouvernement de M. Charest, tout particulièrement, sur l'importance de prendre des actions concrètes en regard des changements climatiques et plus particulièrement des objectifs du protocole de Kyoto. Donc, pour en parler aujourd'hui, deux personnes qui ont survécu au périple, beaucoup plus, j'imagine, vous avez grandi dans ce périple. Donc, Sébastien Lessard, on n'arrête pas de dire des jeunes, écoutez, moi, je leur ai demandé leur âge, me faisait rire. Sébastien Lessard, 24 ans, prof d'éducation physique de métier. Ça va bien?
Bonsoir, oui, ça va très bien.
Et Maude Landreville, également de 24 ans, qui complète un baccalauréat en urbanisme.
Oui.
Ça va bien?
Oui.
Donc, vous deux, vous avez pédalé de Montréal à Québec pour aller revendiquer certaines choses. En fait, vous aviez quatre revendications principales. Peut-être simplement, avant de parler des revendications, vous deux, vous êtes d'Environnement Jeunesse, qui est un organisme qui vise...
Oui, ben en fait, Environnement Jeunesse, qui est un organisme qui vise à favoriser la prise en charge des jeunes là, dans leurs actions environnementales. Donc, c'est un bon tremplin pour, disons, pour le monde des adultes. C'est un organisme qui offre une bonne diversité d'activités, puis sont là depuis au-dessus de 25 ans. Puis à ce titre-là, moi, j'ai connu Environnement Jeunesse là, par notre action nationale, là, qui est le nom de l'action qui nous a menés à Québec en vélo. Puis c'était vraiment trippant, une belle gang qui font beaucoup là, pour
donc un groupe qui est à découvrir particulièrement, excusez-moi, pour les jeunes, parce que c'est de l'éducation relative à l'environnement par et pour les jeunes.
Exactement.
Qu'on retrouve facilement au enjeu.qc.ca. Donc, les quatre revendications que vous amenez auprès des pouvoirs publics, est-ce que vous pouvez m'en parler succinctement de ces quatre revendications-là?
Oui, ben c'était surtout au niveau des transports, entre autres. Donc, eux, ils proposaient de mettre un chapitre au niveau des examens pour passer le permis de conduire, qu'on parle d'environnement. Ils parlaient aussi de transport durable, donc transport en commun, que le gouvernement investisse là-dedans. Et puis, il y avait aussi tout le chapitre des énergies renouvelables et non redoutables. Ainsi qu'il y avait aussi...
Ben, le premier, disons, ou le plus important, c'est ça, c'est que nous, on demandait au gouvernement, là, écoute, le réveil, là, Kyoto, c'est quand même une réduction de 25% là, des gaz à effet de serre versus 90. Bon, c'est 5% par rapport à 90, mais on sait que le Canada a augmenté de 20% d'ici là. Donc ça, c'est la première revendication. On veut un plan d'action gouvernemental ici au Québec, qu'on arrête de se péter les bretelles, de se dire qu'on fait bien les choses, qu'on est mieux que les autres. Mm-hmm. Fait que, en tout cas, à ce titre-là, on demandait là, un plan d'action pour septembre 2005.
D'ailleurs, ce que j'ai trouvé sur le site d'Enjeu, je trouvais que la première revendication était bien articulée dans le sens où est-ce que c'était tellement clair, vous écriviez « Toute décision devrait être compatible avec cet objectif, donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre en dessous des niveaux de 1990. Donc, prendre une décision sans qu'une saine gestion de ces émissions de gaz à effet de serre devrait être... aussi insensé qu'un projet sans saine gestion financière. C'était clair, hein?
Non,
j'ai pas accroché une barre. Donc, vous allez porter ces revendications-là auprès du gouvernement Charest. On vous a envoyé des délégués de différents partis politiques. Vous visiez à rencontrer le ministre de l'Environnement à cette époque, qui maintenant est le ministère de l'Environnement. Hein? Est-ce que vous avez pu rencontrer directement M. Mulcair après votre périple de 270 km dans la slotch, la boue et la glace?
Non, seulement rencontrer des députés de l'opposition.
voyons donc!
Surprise! Non, mais je pense qu'il était occupé à Portobello.
À Porto Alegre, sûrement.
Non.
À Montebello.
À Montebello.
C'est juste en
piqué des opinions.
Pas très loin. Donc, mais personne du gouvernement Charest pour vous accueillir?
Non, ben en fait, non. Il y avait le représentant en environnement de M. Mulcair.
Ah,
bon, moi, ça a rabattu ma joie, si je peux dire, parce que j'aurais bien aimé parler à M. Mulcair directement. Donc, c'est ça. Un représentant du libéral, comme Maude le disait, il y avait aussi quelqu'un de l'opposition. C'est lui qui a pris le leadership d'une rencontre qui n'a pas duré très longtemps, où on a remis nos revendications. Il y avait aussi Agnès Maltais, puis il y avait un autre, un deuxième là, du PQ qui était là.
Donc, beaucoup de gens d'opposition, un simili mulcaire pour vous entendre.
Oui, c'est ça.
J'étais curieuse de savoir, là, donc, le type d'accueil que vous avez reçu. Vous, c'était vraiment pour marquer le coup du lancement, de l'entrée en vigueur, je m'excuse, du protocole de Kyoto. Donc, sans tambour ni trompette du côté des pouvoirs publics, par contre, les médias étaient là pour vous accueillir et relayer votre message.
Oui, ça, je pense qu'on a eu une très bonne couverture médiatique, puis je pense que le fait de faire ça en vélo, justement, ça donnait une image forte à notre
action. En plein
milieu
de l'hiver, tout particulièrement.
Exactement, oui. Et puis, c'était bien parce qu'on était appuyés quand même. Le fait qu'on parte à la fois de Montréal, de Sherbrooke, de Saint-Jean. Et puis, bon, c'est la deuxième année que Environnement Jeunesse fait ça. Puis ça commence à prendre l'ampleur. Puis en fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est que ça prenne encore plus d'ampleur peut-être l'année prochaine.
Vous étiez combien à monter, là, en total, Montréal, Sherbrooke et Saint-Jean?
En tout, on était une vingtaine.
Mm-hmm. Pas de bétail sur la route?
Non, ça a super bien été. Moi, j'ai trouvé ça formidable là, comme randonnée. On était super bien équipés là, avec une petite wagonnette qui nous suivait. On pouvait réparer les vélos à l'intérieur s'il y avait lieu.
Si on vous permettez, on va s'arrêter ici. Au retour, on va parler de cette action-là que vous avez posée, pas tant de la route que vous avez faite, mais de ce type d'action-là pour interpeller les pouvoirs publics, mais aussi les médias, bien sûr, et l'opinion publique par cet intermédiaire. Mais j'aimerais ça aussi qu'on parle un peu des retombées que vous pouvez sentir ou voir concrètement, là, justement, à l'aube du plan pour Kyoto qui s'en vient au Canada à date. Da. De retour en troisième partie d'émission Délirium environnemental. Je vous rappelle qu'on a le plaisir aujourd'hui de s'entretenir avec Sébastien Lessard et Maude Landreville, qui tous deux ont participé à ce périple entre Montréal et Québec pour interpeller les pouvoirs publics. C'est drôle que le gouvernement en place ne pût qu'envoyer qu'un simili représentant de quelqu'un. Mais bon, je suis toujours un peu critique. À ce sujet-là, j'aimerais ça aborder la question. Vous avez posé un geste. En fait, c'était purement militant comme geste. Vous avez des valeurs, des intérêts pour la chose environnementale et vous avez posé donc un geste d'éclat parce qu'on s'entend que faire 270 km en vélo, l'hiver, à 20 jeunes sur l'autoroute, la 138, je pense.
138,
oui, le chemin du roi. C'est un geste concret d'implication, engagé, etc. Puis je voulais aborder un peu cette question-là avec vous, dans le sens que c'est super intéressant, c'est le fun ce que vous avez fait, entre autres parce que les médias en ont beaucoup parlé. Hein, on vous a vu aux nouvelles, puis à plus d'une occasion même, on a entendu parler beaucoup de vous. Puis je me demandais quelle était un peu votre philosophie ou votre logique là-dedans, parce que j'ai l'impression que ce que vous demandiez, là, ça relève du gros bon sens. Hein, on en est rendu en 2005, là. On s'est entendu pour dire que les changements climatiques, c'était une grosse menace. Donc, je me demandais pour vous, ce type d'action-là, est-ce que c'est une fin en soi, mais quelle est l'utilité de ce type d'action-là pour vous? Qu'est-ce que ça sert?
À quoi ça sert? Ben, moi, je pense que ça sert principalement à frapper l'imaginaire. Donc, c'est certain que ça aurait pu prendre plus d'envergure. On aurait pu agir presque comme des mascottes si on avait eu une espèce d'équipement puis d'être encore plus voyant. Mais je pense que d'un autre côté, c'est d'agir pour qu'on en parle du protocole de Kyoto, que le 7 février passe pas inaperçu puis tout ça. Puis sur un autre point de vue, c'est de montrer que c'est faisable. Que, bon, on est jeune, qu'on peut embarquer sur notre vélo, puis que l'hiver, ça se fait pédaler, et puis c'est aussi les changements qu'on fait en portant des actions comme ça. Chacun
Mm-hmm. Puis à quoi ça sert? Je pense que les jeunes apprennent par observation. Donc de voir ça, ça peut être quelque chose qui va les stimuler, les motiver. Pour la génération des baby boomers qui ont souvent deux autos pour une famille de deux, ça va se vouloir.
C'est pas une famille à deux.
Non, c'est ça. Mais ça va. En fait, on veut leur brasser la cage là, parce qu'eux autres aussi ont à sortir de leur torpeur puis à poser des gestes concrets là, pour atteindre l'objectif là, qui est de la réduction des gaz.
Pensez-vous que vous êtes représentatif, parce qu'on dit les jeunes, là, on pourrait tous se mettre dans le même panier, on est tous des jeunes. Par contre, est-ce que, par exemple, toi, Sébastien, en étant professeur au secondaire, tu as accès à ce qui se dit puis ce qui se passe un peu chez les jeunes. Est-ce que vous diriez que vous êtes représentatif, que cette conscience-là puis cette sensibilité-là que vous avez à l'environnement qui vous a amené à poser ce geste-là, est-ce que vous diriez que c'est répandu? Est-ce que c'est vrai que les jeunes sont plus sensibles à la cause environnementale?
Je pourrais pas répondre pour les beaucoup plus jeunes. Les gens de mon âge, disons 24 ans, c'est jeune. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on est assez conscientisés. De là à voir si tous et chacun s'impliquent, ça, c'est une autre question. Mais moi, j'ai espoir, là.
Moi, je vais y aller d'une nuance. Là, je travaille au primaire et au secondaire. Puis, ce que je vois, c'est chez les jeunes, c'est partagé. Il y en a qui sont, ben, je vois ça peut-être comme victimisation, le plus inconsciente, mais il y a quand même tout l'appareil publicitaire qui valorise encore énormément l'automobile. Donc, il y a de ce côté-là, ce type de jeunes-là qui vont aller vers des habitudes de vie comme ça. D'un autre côté, je prends l'exemple de mon petit frère Michael, il y a 13 ans, déjà impliqué en environnement secondaire 1, alors que des fois, c'est des secondaires 4 et 5 qui prennent la place.
Beaucoup... Parce qu'il y avait un grand frère pour lui donner l'exemple.
Oui, c'est ça. Beaucoup d'écoles vertes, Brundtland, on s'en parlait mm-hmm. l'autre fois avant l'émission, puis c'est ça comme quoi, au niveau des institutions, je pense qu'il y a beaucoup qui se fait. Puis la génération grandissante, Maud parlait d'espoir, puis moi j'y crois aussi. Ils m'apparaissent davantage sensibilisés à cette cause environnementale-là. Mm.
Excuse-moi, ouais, avez-vous eu bien du feedback après justement être monté à Québec, vous êtes revenu ici à Montréal, est-ce que vous avez eu des échos autant chez les jeunes que chez les moins jeunes? Est-ce que les réactions étaient positives? Avez-vous senti un message qui est passé?
Bonne question. Je pourrais pas.
Puis, moi, ça me laisse l'impression que j'ai pas eu tant d'échos que ça, là, concrètement. Même à Donnacona, notre troisième soir, donc avant-dernier arrêt avant Québec, on était à la maison des jeunes de Donnacona. Très peu de jeunes étaient venus pour voir une gang de cyclistes qui faisait Montréal-Québec dans le fret de février. Ensuite de ça, François-Xavier Garneau, cégep à Québec. Moi, j'y étais pas, j'ai dû remonter à Montréal. Par contre, on avait du monde de la gang qui était là pour aller parler de l'expérience. Apparemment que ça a pas levé fort, là. En tout cas, il y a un désintérêt, là, qui a été marqué à ce niveau-là. Pour le reste, en jeu, je sais pas, là, si au niveau des gens qui travaillent là, s'il y a eu là, des rétroactions de la part des jeunes.
Mm-hmm. On le saura peut-être un peu dès qu'on va se doter. Enfin, finalement, peut-être, éventuellement, on veut du plus. Des adverbes, que si ça a fonctionné, dans le sens que ça va dépendre beaucoup du plan d'action pour Kyoto, duquel on va se doter. Vos impressions à ce niveau-là, pensez-vous de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, parce que vous êtes au courant, vous suivez l'évolution de ces dossiers-là, pensez-vous que ce sera des bonnes nouvelles, par exemple, demain, le plan d'action canadien? Pensez-vous qu'on peut... oui, vous avez de l'espoir en termes d'implication citoyenne, mais maintenant, avez-vous de l'espoir quand vous regardez les pouvoirs publics agir en regard de ces questions-là?
Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a des choses qui se font d'un côté puis qui sont anéanties de l'autre côté. J'ai mm-hmm. souvent l'impression que les gouvernements nous mettent un peu de la poudre aux yeux en manipulant très bien les chiffres, bien souvent, et puis que c'est comme dur de voir ce qui est vraiment leurs intentions. Puis on dirait que j'ai comme moins d'espoir de ce côté-là, je pense.
De là l'importance de la prise en charge personnelle, je pense, parce que... Effectivement, là, du côté gouvernemental, on traîne de la patte. Là. Il y a eu une commission parlementaire en février 2002. Vous en avez sûrement déjà parlé ici. Là. Les députés ont eu 1000 nuits à dormir sur leur oreiller pour penser à Kyoto. Puis ça me laisse pas l'impression qu'ils l'ont réellement fait. Là.
Mm-hmm.
Bon,
en fait, on va souvent ramener ça parce que, justement, si tu me permets là-dessus, c'est ce que tu dis, Sébastien. Tu dis, au niveau individuel, oui, mais en même temps, ma question, c'est des pouvoirs publics, puis les pouvoirs publics ont quand même une mainmise sur ce qu'ils peuvent mettre en place comme réglementation. Puis tous les beaux efforts des citoyens vont jamais arriver à la cheville de si tout un gouvernement, toute une logique économique se mettait au service de ces valeurs-là.
Oui, puis l'Europe l'a réussi. L'Europe l'a réussi, c'est ça, je pense. Je reviens sur l'apprentissage par observation, mais au niveau politique, ça se fait. L'Europe, c'est un gros joueur au niveau mondial, politique, économique, culturel. Ils l'ont fait. Je crois qu'on doit s'en inspirer, puis on se pètera les bretelles, en tout cas le jour où on aura, où on tendra vers l'Allemagne ou vers d'autres pays qui font bien les choses.
Ben, ça va être notre mot de la fin. On se pètera les bretelles à ce moment-là quand on regardera enfin et on se mettra à agir dans la bonne direction. Sébastien Lessard, merci beaucoup. Maude Landreville, merci beaucoup. Deux jeunes, donc, qui s'impliquent avec Enjeux Environnement Jeunesse, que vous pouvez retrouver au www.enjeux.qc.ca. Petit site que je vous invite à découvrir parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Entre autres, vous pourrez avoir plus de nouvelles sur ce périple qu'ils ont entrepris. On s'arrête pour tout de suite et au retour, on vient et on vous parle du projet Fait à part qui, justement, parlant d'implication et d'engagement, mais surtout de moyens à mettre en œuvre pour atteindre nos beaux objectifs en regard de Kyoto. Hey, ça, c'est au retour. J'ai pas fini ma phrase.
Chérie, pourquoi t'arrêtes en plein milieu comme ça?
Je m'excuse, mon amour. J'ai de la misère à me concentrer.
Allez, dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse?
Mais c'est juste que cette semaine, c'est toi qui as fait le lavage et je suis sûre que t'as utilisé l'eau chaude au lieu de l'eau froide.
Les changements climatiques te préoccupent? Fais ta part pour le défi d'une tonne. Laver et rincer tes vêtements à l'eau froide te permet de réduire ta consommation d'énergie de 50% à chaque brassée. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net. Parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
Retour à Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. L'équipe de Delirium Environnemental, c'est beaucoup plus que simplement des gens qui font de la radio. On est tous des êtres multidimensionnels. Et dans nos temps libres qui n'existent pas, nous trouvons du temps pour nous impliquer, nous engager en regard de la cause environnementale qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, on va vous parler du rôle de citoyen qu'on a occupé, non. De l'implication qu'on a eue, non. On va vous parler d'un beau projet qui s'appelle Fait à part. En fait, c'est Nicolas Mainville qui est l'un des instigateurs de ce projet-là qui va nous présenter tout ça un peu en grand. Vous
avec
présenter.
Hugo, en fait, on va en parler puisque...
Ça fait nombre d'heures qu'on passe sur, justement, les capsules que vous avez entendues tout au long de l'émission. C'est une série de 25 capsules qu'on a faites. Non pas pour s'amuser sur un micro puis gosser pendant des heures à faire du montage, mais bien pour passer un message puis peut-être ouvrir la porte à une nouvelle façon de communiquer ce qui se fait comme solution en l'égard des changements climatiques et tout ce qui est accessible à nous, citoyens, qui, dans le fond, on est tous des consommateurs, consommateurs. On a toute cette porte ouverte à changer les choses dans la mesure du possible. Et puis, on s'est dit, écoutez, on va s'inspirer du défi d'une tonne qui est lancé par le gouvernement canadien, qui nous dit, écoutez, chaque Canadien émet 5 tonnes de gaz à effet de serre par année. On a ce défi qui est lancé, réduisez d'une tonne vos émissions par année. Alors, on a pris ce défi-là en s'associant avec le réseau environnemental des jeunes, qui est un peu le semblant d'enjeu environnement jeunesse ici au Québec, mais à travers le Canada. Et puis, en faisant ce projet-là, on s'est dit, en lançant des capsules qui sont, dans le fond, dans des formats ultra versatiles, où est-ce que les gens peuvent l'écouter sur Internet, où est-ce qu'ils peuvent s'envoyer ça par courriel, peuvent mettre ça sur leur site Internet aussi, on va pouvoir s'échanger, dans le fond, cette information-là, qui est une information, je dirais, un
capitale.
Peu... ben capitale, mais aussi présentée de façon assez ludique, assez sympathique.
On a tenté, je pense, de jouer sur l'aspect « les Québécois adorent l'humour ». On a tenté de jouer la carte de l'humour un peu à travers de nos capsules. Et c'était en partie pour répondre à un rapport du comité sénatorial sur le défi d'une tonne qui disait que finalement, les Canadiens n'étaient pas trop au courant de ce défi-là et ils n'avaient pas vraiment vu comment ils pouvaient agir. Donc
le beau à la télévision, vous l'avez pas
et
vu,
pourtant,
monsieur,
et pourtant...
La grosse voix de cigarette, là. Donc, les gens ne connaissaient pas suffisamment. Puis je trouve ça drôle parce que ça s'inscrit un peu en porte-à-faux par rapport à tout ce qu'on disait aujourd'hui, où est-ce qu'on critiquait beaucoup le fait que le gouvernement canadien mette le fardeau de la responsabilité au niveau de la diminution des gaz à effet de serre sur les citoyens et citoyennes, bien entendu. Par contre, justement, ceci dit, c'est pas une raison pour pas faire sa part, mm-hmm. justement, puis essayer d'agir concrètement dans nos vies de tous les jours. Et c'est un peu ce que vous visiez, donc, avec ces capsules.
D'où l'idée du faitapart.net, donc FAISTAPART. Allez voir ça, ce site-là, puisque, bon, toutes les capsules sont là. Et puis, vous avez accès à cette information-là et aussi à d'autres liens web, d'autres organismes qui travaillent sur cette cause-là. Et puis, vous allez aussi pouvoir, par la même façon, être sensibilisé et justement profiter de cette espèce de plateforme d'acteurs qu'on a tous. Parce que moi, je me rends compte que jour après jour, dans notre vie de tous les jours, c'est difficile de rester constant dans nos actions. Même si on lit l'information, même si on est quand même sensible à la cause, on se retrouve à l'épicerie ou on se retrouve dans notre automobile ou on se retrouve au concessionnaire automobile et dans sa douche ou n'importe où avec un choix à prendre. Est-ce que je veux être éco-acteur ou ne pas l'être? Est-ce que je veux prendre et faire ma part? Et puis bon, ben ce petit outil-là devient intéressant, d'autant plus qu'il peut se diffuser largement.
Peut-être
maintenant avec les joies de la multimédia et de l'Internet et toutes ces affaires-là.
C'est si moderne, c'est beau comment tu parles, Nicolas Maville, jour après jour après jour, je me demande si je veux vraiment m'engager, je ne sais pas.
Mais c'est vrai, pareil.
Tout à fait, tout à fait. Donc, j'inviterai une dernière fois les gens, tout le monde, que vous soyez des groupes, des radios, des émissions de radio, de simples soins, à aller et écouter donc ces 25 capsules-là qui sont sur faitapart.net, FAISTAPART.net. Et surtout, rappelez peut-être que c'est à visée large, donc diffusion libre. Donc, n'hésitez pas à télécharger, à les envoyer à vos amis, à référer les gens au site Internet. Si vous faites partie d'émissions de radio, n'hésitez pas à les diffuser sur vos ondes. Vraiment, c'est un contenu libre et gratuit, accessible à tous, parce que l'important là-dedans, c'est pas les droits d'auteur dans ce cas-ci, mais bien la cause qui est réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Je pense qu'on peut s'en mettre une petite là, avant de finir l'émission. Là.
Juste avant, puis au retour, coup de cœur, coup de masse et au calendrier.
Excuse-moi, man, j'aimerais ça faire ajouter un gros muffler pis des capes de roue chromées sur mon char.
Hey, on fait pas ce genre de job-là dans mon garage.
Ouais, avec le protocole de Kyoto, ça a plus trop rap ton affaire.
Les changements climatiques te préoccupent? Fais ta part pour le défi d'une tonne. Si tu veux épater la galerie avec ton véhicule, procure-toi un automobile hybride qui consomme moins de 4 litres au 100 km. Tu feras des jaloux dans les bouchons de circulation parce qu'une hybride qui avance pas, c'est une hybride qui consomme pas. Pour en savoir plus, visite le www.faitapart.net parce que les changements climatiques, ça nous concerne tous.
Hey, c'est déjà la fin de Délirium environnemental, mais juste avant de finir, bien sûr, on va se faire plaisir en partageant avec vous nos coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine, messieurs, et pour une fois, madame, faites-vous plaisir.
Hello. Eh bien, je pense que je vais lancer un gros coup de cœur à l'ONU cette semaine parce que l'ONU regarde les problèmes de manière globale et là, on s'aperçoit qu'on a deux luttes à mener sur le même front. On veut chercher des solutions gagnantes-gagnantes. Les CFC, c'est pas une... les alternatives aux CFC qu'on avait trouvées ne sont pas bonnes.
Moi, j'ai un coup de masse vraiment niaiseux à partager avec vous. Hey, Bell Canada, là, ça coûte cher, ça? En plus de l'électricité, je me dis, c'est complètement débile. Je m'excuse, c'était mon coup de cœur niaiseux, mais ici.
Là, ça prend Internet là, pour qu'ils écoutent nos capsules.
Et ça me permet de vous parler du prochain sujet qui est, en fait, quelque chose à mettre à votre calendrier. C'est la journée d'études de la Attaque Québec. Connaissez-vous Attaque? Si vous ne connaissez pas le groupe Attaque, il faut le connaître, section Québec. Donc, samedi le 16 avril 2005 à Montréal, c'est la journée d'études 2005. Et le titre cette année, où est passé l'argent? Moi, je me le demande, où est passé l'argent? Il parle justement du fait que nous vivons dans un pays riche en période de croissance économique. Pourtant, on dit chaque jour que les finances publiques sont à sec et que l'État n'a plus les moyens de rien. Belle question, ça se passe le 16 avril. Pour avoir plus d'informations, Attaque Québec, c'est québec.attaque.org.
Écoutez, je fais un coup de masse monumental au gouvernement québécois. En fait, je reprends une revendication d'Environnement Jeunesse de dire, écoutez, il est où notre plan Kyoto-Québec, même si le plan Kyoto-Canada rentre demain, aujourd'hui, mercredi. Écoutez, en faisant ce coup de masse-là, je vous appelle à l'action 14 avril prochain, 17h30. C'est quoi qui se passe? Eh bien, c'est le deuxième anniversaire de l'élection officielle de M. Jean Charest. Deuxième anniversaire qui va se fêter en face de son bureau, donc sur McGill College, coin Sherbrooke. Une grosse manifestation organisée par la coalition. J'ai jamais voté pour ça.
À 17h30, le 14.
17h30, le 14. Soyez là, sérieusement, c'est un besoin et un devoir de citoyen.
Coup de masse cette semaine. Savez-vous ça? Qu'il y a 44 000 nids d'oiseaux qui ont été jetés à terre en 2001 par les forestiers ontariens.
Ça ne surprend pas, écoute les arbres.
Eh bien, la commission de coopération environnementale a ouvert un dossier là-dessus. On va aller regarder de plus près ces coupeurs d'arbres.
Il n'avait pas pensé à ça quand on coupait des forêts au grand complet, on faisait tomber des nids. C'est drôle comment c'est fait, la vie.
Ah ben.
En cette semaine de plan Action Kyoto, vous savez que les réductions de l'industrie automobile sont les mêmes que le défi d'une tonne. Alors, tous, citoyens et citoyennes, allons faire le même effort que l'industrie automobile. Et donc, c'est évidemment un coup de masse solide au manque de fringance du gouvernement canadien face à l'industrie automobile. Un blâme!
Un gros blâme, gros blâme. Moi, j'y vais encore d'une petite activité au calendrier. Écoutez, c'est un échange de services pour être bien honnête. Pour tous ceux qui voudraient voir la bouille des gens qui parlent à Delirium environnemental, ils participeront à des débats télévisés à 100% écolo. Le sujet cette semaine à 100% écolo, vous savez, c'est l'émission qui passe à Canal Vox. Saviez-vous, vous autres, que le Canal Vox, là? Hey, c'est le 9, OK?
Non, je savais pas.
Moi non plus. Donc, à 100% écolo cette semaine, ils parlent de changement climatique. Gardez ça à l'œil, c'est le mercredi à 19h30, puis ça rejoue 800 000 fois pendant la semaine. Puis un jour, vous pourrez y voir les gens de Delirium environnemental. Hey, c'est-tu déjà la fin des coups de cœur, coup de masse et au calendrier cette
c'est
semaine?
C'est surtout la fin de l'émission. Hein?
Semble-t-il. Pour cette semaine du 12 avril, on va garder à l'œil pour vous le plan d'action canadien qui va rentrer en action demain, semble-t-il. C'est des beaux mots. En tout cas, Delirium environnemental, c'est d'abord une équipe magique cette semaine en studio avec moi, Hugo Lachapelle, ainsi que Nicolas Mainville, nos invités Sébastien Lessard, ainsi que Maud Landreville. Moi, c'était Sofiane Legendre au micro. L'animation, pas pantoute, à la régie concepteur du site web que vous retrouvez au www.radiodelirium.net. Étienne Côté-Paluc, un gros merci. C'est également le concepteur du site faitapart.net qui s'écrit comme faitapart.net. Delirium environnemental, c'est également depuis tous les tout débuts de l'aventure Patrick Bonin ainsi que Nicolas Milo. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles.
Faites à part.